Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Frédéric. Je vous propose la deuxième partie de l'interview réalisée en insert téléphonique avec François Véter, correspondant Priartem, pour rassembler, informer et agir sur les risques liés aux technologies électromagnétiques. Il nous parle de son association et de l'électro-hypersensibilité dont souffre sa femme.
Et là, on arrive à un autre aspect, c'est l'histoire de la fabrique du doute, comme pour le tabac, comme pour pendant longtemps pour le changement climatique, comme pour l'amiante. Il suffit qu'il y ait un ou deux experts quelque part qui disent « Oui, mais tout ça, ça n'est pas vrai. » Ou « Tout ça, ça n'est pas sûr. » Ben, pour qu'on dise « Bah oui, ben, il y a un doute. Alors, on va quand même pas modifier les règles tant qu'il y a un doute. » Et ça peut parfois prendre... Enfin, dans le cas de l'amiante, ça a pris un bon demi-siècle. Alors, je crois même un peu plus. Pour le tabac, ça a mis très longtemps aussi avant qu'on admette officiellement que le tabac est nocif et qu'on mette en place des règles. Je suis persuadé qu'un jour, on admettra que les champs électromagnétiques sont nocifs et qu'on changera les règles et les valeurs, mais je ne sais pas quand.
Donc c'est un travail de longue haleine, quoi. Oui, c'est ça. Il y a encore beaucoup, beaucoup de temps avant que ces maladies soient reconnues, parce que c'est une maladie, en fin de compte. Est-ce qu'on peut appeler ça une maladie ? Oui, c'est ça.
Mais alors, bon, deux choses. Donc, c'est un travail de longue haleine parce qu'il y a énormément d'intérêts économiques en jeu. Et ces intérêts économiques font tout ce qu'ils peuvent pour bloquer tout renforcement des normes pour aller vers moins de champs électromagnétiques. Parce qu'aller vers moins de champs électromagnétiques, ça diminue fortement les ambitions des industriels de tout connecter. Alors, dans ce que vous aviez dit, il y avait un autre aspect, le mot maladie. Effectivement, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs associations de personnes qui s'occupent des ondes, et certaines de ces associations ne veulent pas entendre prononcer le mot maladie. Ça, c'est l'un des débats qui est récurrent entre les associations. C'est les électro-hypersensibles sont-ils malades ou sont-ils rendus malades par l'environnement ? Alors, la réponse est un peu dans la question. Les personnes, au départ, ne sont pas malades. C'est l'environnement qui les rend malades, de la même manière que si vous mettez une personne très longtemps dans un environnement pollué chimiquement, elle va finir par tomber malade, alors qu'au départ, elle ne l'était pas. La différence avec la pollution chimique, c'est que la pollution électromagnétique, elle est continue et partout. On peut... Si j'ai une usine chimique à côté de chez moi qui émet des émanations, je peux aller habiter plus loin et je ne suis plus dans le champ des émanations de l'usine. Si je ferme mes fenêtres, si je calfeutre mon atmosphère, je peux avoir une atmosphère relativement propre chez moi. Par contre, les ondes sont prévues pour passer à travers les murs. Les ondes sont prévues pour couvrir l'ensemble du territoire. C'est bien la volonté du gouvernement qu'il n'y ait plus une seule zone blanche. Donc, comment est-ce qu'on peut vivre dans un environnement où on est agressé partout ? C'est ça la question.
Et ça représente combien de pourcentage par rapport à la population, les gens qui sont touchés par l'électro-hypersensibilité ?
Alors oui, ça c'est une bonne question. Alors il y a un chiffre qui est globalement avancé, c'est de l'ordre de 5%.
Ah, c'est énorme.
C'est énorme, rapporté à la population.
Ah oui, oui bien sûr, oui.
Plusieurs millions de personnes. Alors, il faut juste dire que c'est un chiffre, c'est une estimation. Forcément, dans la mesure où la pathologie n'est pas reconnue officiellement, il n'y a pas de statistiques. C'est une estimation, mais une estimation qui a été prise en compte. Enfin, c'est l'estimation de l'ANSES. Donc, c'est comme quelque chose, il y a un caractère officiel dans cette estimation. Et il y a des pays où l'électro-hypersensibilité est reconnue et où il y a des statistiques. Et globalement, ça se tourne dans cette proportion-là.
Madame, un traitement, comment ça se passe avec votre médecin traitant alors ?
Là, vous mettez vraiment le doigt sur le problème majeur. Au niveau national, il existe quelques médecins qui connaissent la pathologie et qui donc qui savent la diagnostiquer et qui proposent des traitements. Alors, je reviendrai après sur le terme de traitement. Il y a notamment le professeur Bellepomme, qui a été malheureusement beaucoup décrié parce qu'il dérange beaucoup dans le paysage médical. Et le professeur Bellepomme arrive à un âge où il prend sa retraite, donc il est en train de former de jeunes médecins à la reconnaissance et à la prise en compte de cette pathologie. Mais ça fait peut-être, je veux dire à la louche, il doit y avoir une dizaine de médecins en France qui sont capables de prendre en compte les EHS. Rapporter ça aux 3 millions, ça veut dire que la quasi-totalité des personnes n'est pas prise en charge. D'autant plus que quand il faut se rendre à Paris, quand on ne supporte pas le train pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, on ne peut pas s'y rendre. Donc c'est pareil, il y en a un an. Il y en a. Actuellement, le problème, il est qu'il y a quelques spécialistes en France, mais qu'il faut se pouvoir aller là-bas, ce qui n'est pas à la portée de la plupart des personnes.
Oui, donc vous êtes plutôt isolé que... Voilà.
Plus qu'isolé.
Hein. Oui.
Donc, alors, les médecins traitants. Alors, parfois, il y a quelques médecins traitants qui se sont un peu intéressés à la question et qui ont de petites notions, ou au moins qui acceptent d'établir des certificats médicaux. Parce que pour les personnes qui travaillent, j'en ai pas parlé, c'est pas le cas de mon épouse puisqu'elle est à la retraite, mais il y a tous ceux qui travaillent. Et quand ils sont dans un environnement où ils ne peuvent plus travailler, il faut au minimum qu'ils soient reconnus handicapés. Il y en a beaucoup qui se battent pour parvenir à l'obtenir et qui n'arrivent pas, faute de nomenclature, faute de reconnaissance d'une pathologie par les institutions officielles. Et puis donc, vous posiez la question du traitement. Ben, traitement, pour l'instant, on en est à des... à un stade de recherche. Il n'y a pas encore officiellement de traitement de l'électro-hypersensibilité. Donc, par contre, ce qui se fait, on s'est rendu compte que l'électro-hypersensibilité crée un stress oxydatif. Donc, l'une des pistes de traitement, ce qu'utilisent actuellement les gens qui ont été voir Bellepomme ou qui vont encore le voir, c'est de donner des antioxydants puissants pour compenser ce stress oxydatif. Et ils donnent aussi des vitamines pour compenser, toujours un peu dans le même esprit, compenser le stress oxydatif et les atteintes neurologiques. Mais il n'y a pas de traitement au sens médical du terme.
Vous écoutez un interview de François Véter par insert téléphonique qui est correspondant de l'association Priartem pour rassembler, informer et agir sur les risques liés aux technologies électromagnétiques. Le quotidien pour madame, alors c'est quoi? Vous avez mis en place des protocoles à la maison? Comment vous faites?
À la maison, donc on a la chance d'habiter à la campagne, ce qui ne nous évite pas d'être exposés à des antennes relais, mais on a réussi à blinder un certain nombre de pièces, notamment la chambre où on dort, et puis les locaux de vie, on a réussi à s'organiser dans la maison pour qu'elle ne soit pas trop exposée à l'intérieur de la maison. Quand on est à la maison, ça va. Le problème, c'est quand il faut sortir. On a un jardin, on habite près de la forêt, mais pour sortir, même que les antennes sont relativement loin, il faut qu'elles se protègent elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles mettent des vêtements anti-ondes qui contiennent des fils d'argent qui atténuent le rayonnement. En hiver, ça va. En été, quand il fait chaud, il faut s'imaginer que s'il faut se blinder, ben, ça devient très très difficile à vivre parce que on transpire là-dessous. Et il est impossible de sortir pour elle, de sortir en tenue légère parce qu'elle est exposée, quoi. J'espère que justement mon regard de témoin ou de compagnon va peut-être aider certaines autres personnes qui vivent en relation avec des personnes électro-hypersensibles à comprendre ce que vit
le quotidien d'une personne électro-hypersensible.
Et que ces personnes, comme dit, alors il y a plus, j'en ai encore dit avant, il y a plusieurs degrés. Il y a le degré de je commence à pas être bien quand je suis exposé aux ondes, mais je peux me débrouiller. qui restent, donc c'est le cas quand même de bon nombre d'électro-hypersensibles à premier stade, on arrive encore à peu près à vivre en prenant quelques précautions. Et le deuxième degré, c'est quand on est vraiment bien atteint et on ne peut plus faire un certain nombre de choses, on ne peut plus sortir, on ne peut plus s'exposer. Et il y a le degré ultime, on en a connu quelques-uns, qui sont des personnes qui ne peuvent même plus, qui ne trouvent même plus un endroit où elles peuvent être parce que la plus faible exposition leur devient insupportable. Et ce sont des gens qui sont dans l'errance, qui sont des SDF, qui vivent dans leur camionnette ou dans leur voiture, et qui vont dans la forêt, ou dans des grottes, ça existe. Et quand on entend ça, on a envie de dire, mais ils sont fadas. Ils ne sont pas fadas, ce sont des gens comme vous et moi, mais qui sont à un stade extrême. Et ces gens-là, je ne sais pas ce que je ferais si j'étais à leur place, parce que c'est quelque chose de... c'est inimaginable. D'autant qu'étant à ce stade-là, ils ne peuvent plus travailler. Ils n'ont plus, en général, ils n'ont plus de ressources. Sauf quand ils ont réussi à obtenir un statut de travailleur handicapé, ce qui est difficile. C'est quelque chose d'assez dingue.
Merci de votre témoignage, Monsieur Véter. On a parlé de Prix Artem, donc l'association qui est nationale. Comment contacter l'association? Comment avoir des renseignements, s'il vous plaît, Monsieur Véter?
L'association a un site, donc c'est www.prixartem.fr. Et sur ce site, vous trouverez toutes les informations. Alors, pour les personnes si les personnes n'ont pas accès à Internet, on peut être électro-hypersensible et avoir accès à Internet. Souvent, des gens nous disent, oui, mais si je coupe le Wi-Fi, je n'ai plus accès à Internet. C'est absolument faux. Mon épouse se sert d'un ordinateur, elle va sur Internet, mais on est tout en liaison filaire. Ce qui est toxique, c'est la liaison Wi-Fi. On n'a pas besoin du Wi-Fi pour aller sur Internet. Voilà, c'est une parenthèse que je voulais...
C'est important de le signaler, oui.
Ni du Bluetooth, parce que le Bluetooth, c'est tout aussi gênant que la Wi-Fi. En termes d'intensité des émissions, c'est un peu moins fort, mais le Bluetooth, on le manipule à courte distance, donc c'est tout aussi gênant que le Wi-Fi. Et on n'en a pas besoin, on peut tout mettre en filaire.
Très bien de préciser, voilà.
Donc, pour Prix Artem, pour les personnes qui ne peuvent pas avoir accès à Internet pour diverses raisons, il y a moyen d'écrire. Alors là, je vais vous donner l'adresse que je ne connais pas par cœur, mais voilà, je l'ai trouvée. Donc c'est boîte 64, 206 quai de Valmy, 75010 Paris.
Merci Monsieur François Véter de votre témoignage. Merci à Madame qui est derrière, qui vous appuyait pour faire cette interview par insert téléphonique. Donc vous êtes correspondant Prix Artem. Donc Prix Artem, c'est une association nationale, comme on disait. Et donc les auditeurs, n'hésitez pas, si vous avez des doutes sur votre état de santé ou autour devant votre entourage, n'hésitez pas à vous renseigner, à prendre plus d'infos. Monsieur Véter, on reviendra vers vous pour prendre vos nouvelles.
Oui, très bien. Alors, juste pour, vous avez dit, Prix Artem est une association nationale, mais il y a des relais locaux et départementaux selon les secteurs.
Voilà, et vous, votre secteur, c'est la Franche-Comté, c'est ça?
Nord-Franche-Comté.
Nord-Franche-Comté.
Il y a quand même deux en Franche-Comté. Il y a quelqu'un sur le Sud-Franche-Comté. Donc moi, je suis sur le Nord-Franche-Comté. Mais en gros, on a quand même des correspondants à peu près répartis sur toute la France. Donc, en allant sur le site, vous pourrez trouver le correspondant le plus proche de chez vous qui pourra répondre plus précisément à vos interrogations.
Merci, Monsieur Véter.
Eh bien, merci à vous de m'avoir écouté en espérant que ça puisse servir à quelque chose, ce que je vous ai raconté.
Puis, on reviendra vers vous un peu plus tard pour prendre des nouvelles de madame et puis de votre association. C'était Frédéric qui était en insert téléphonique avec François Véter, correspondant de l'association Prix Artem, pour rassembler, informer et agir sur les risques liés aux technologies électromagnétiques. Bonne écoute sur RVM 93.7.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.